Le journal Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Comment établir la filiation des enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger? Est-ce que cela vaut reconnaissance de la GPA? Vote à l'Assemblée cette nuit, décision importante de la Cour de cassation en début d'après-midi. Les questions clés et les réponses sur ce sujet pour tout comprendre avec Daniel Messager. Macron dans la fosse, au salon de l'élevage de Courmont face aux agriculteurs fâchés après le débat sur les retraites hier soir. Le gouvernement dit vouloir écouter les citoyens. La convention sur le climat, 150 quidam tirés au sort, se réunit aujourd'hui pour la première fois. Parole d'une des participantes.
Pour moi, c'est comme d'aller voter. Si j'ai mon bulletin de vote, je suis citoyenne, je viens, je suis sélectionnée, je suis citoyenne française. Et j'en suis très fière.
Et nous l'entendrons plus longuement tout à l'heure. Pour cette forme de démocratie, l'exemple vient d'Irlande. Nous vous expliquerons. Loi bioéthique, budget et autres réformes de longues nuits de débats vont se tenir tout l'automne à l'Assemblée. Quelle ambiance lors de ces discussions nocturnes? J'ai testé pour vous. Reportage Maxence Lambrec, des cernes sous les yeux. Le tueur de la préfecture de police avait eu des visions, entendu des voix la nuit d'avant. C'est ce que dit sa femme. 4 morts et une fonctionnaire toujours hospitalisée. Cérémonie d'hommage aux victimes très émouvante ce matin. Dans ce journal encore, l'enseigne d'ameublement Habitat à nouveau en difficulté. Tout un secteur en pleine mutation. La police en Irak tire sur la foule. 4e jour de manifestation contre la corruption et le chômage. Nous commencerons par là. Le Venezuela, dénoncé par l'ONU. Bonjour Olivier Poujade.
Bonjour Bruno.
On ne s'embarrasse pas de procès à Caracas. Près de 18 000 morts, des exécutions sommaires.
Ouais, c'est la face sanglante du gouvernement de Nicolas Maduro que nous dévoile ce rapport. Mais au-delà du chiffre, Bruno, les Nations Unies dénoncent un modèle de conduite systématique de la force publique.
A tout à l'heure pour les détails dans l'actualité internationale, les manifs habituels du vendredi en Algérie et pour le climat. À propos d'environnement, la Terre au carré, juste après ce 13h. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le menu?
Je reçois la philosophe Vinciane Després qui s'intéresse à la territorialité chez les oiseaux pour nous expliquer le travail des ornithologues. Car les oiseaux, Bruno, habitent des territoires très délimités. On en parle avec nos auditeurs pour accueillir les questions et les témoignages.
On appelle les oiseaux au 01 45 24 7000 dès maintenant. Rendez-vous à 13h30. Avant cela, deux stars de l'art au menu de ce journal. Vinci et la Joconde, une chambre toute neuve au Louvre avant l'expo événement de l'automne. Jeff Koons et ses tulipes, la statue promise en signe d'amitié aux Parisiens après les attentats inaugurés ce matin. Le foot, Claude Puel, l'ancien Lyonnais, nommé entraîneur du rival Saint-Etienne. Et puis en rugby, le mondial, France-Tonga dimanche. 7 forfaits chez les Bleus, question sur leur préparation physique. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Le pays semblait quelque peu sorti de l'ornière ces deux dernières années. Voilà qu'il replonge dans l'instabilité. L'Irak, 4e jour de manifestation contre la corruption et le chômage. Soit on meurt, soit on change le régime, disent les manifestants. La police tire sur la foule. Ce matin encore, plus de 30 morts, des centaines de blessés depuis mardi. Particularité, le mouvement semble né sur les réseaux sociaux. Pas de parti politique ou de religieux pour le lancer. D'ailleurs, le gouvernement coupe l'accès à Internet, ce qui n'empêche pas les manifestants de descendre dans la rue. France Inter à Bagdad, Lucie Wasserman.
Les Irakiens ne décolèrent pas à Bagdad. Positionnés à un rond-point à l'ouest de la ville, des dizaines de manifestants font face à des forces de sécurité. Parmi eux, Ali, la trentaine, a les larmes aux yeux. Il manifeste aujourd'hui pour ses droits, dit-il.
D'après la Constitution, il y a une sécurité sociale, un soutien pour les personnes âgées, une protection pour les enfants, des services sociaux, Internet. Mais non, il n'y a rien ici.
Tous dénoncent les pénuries d'électricité et d'eau potable, ainsi que le chômage qui touche près d'un jeune sur quatre à Bagdad, comme Ahmed, 28 ans.
J'ai un doctorat et je n'ai pas d'emploi. Je dois faire quoi? Vendre un rein?
Autre raison de leur colère, la corruption endémique dans le pays, comme l'explique cet autre manifestant.
Ils volent les gens, ils détruisent le peuple. Aucun des membres du gouvernement ne souffre comme nous en souffre.
Tous disent vouloir réformer le système, changer le régime. Ils ne dénoncent pas un an, mais 15 années de mauvaise gestion gouvernementale.
Et en ce vendredi, ces paroles étaient attendues. Le très influent Ayatollah Ali Sistani soutient ce mouvement de contestation. Le pouvoir doit réagir, dit-il, avant qu'il ne soit trop tard.
Le journal de 13h. Sur France Inter.
C'était cette nuit, peu avant 1h du matin, à l'Assemblée nationale. Hémicycle largement vide, examen du projet de loi de bioéthique. L'amendement 1591 est adopté contre la volonté du gouvernement. La reconnaissance en France d'enfants nés de GPA à l'étranger devient automatique. Leur statut est aujourd'hui flou. Le temps des bâtards est fini, lance le député Jean-Louis Touraine à l'origine de l'amendement. Le gouvernement s'oppose à cette reconnaissance et demande un nouveau vote. Nous avons interdit la GPA dans notre droit. C'est une question d'ordre public, rappelle la ministre de la Justice. Coïncidence, en début d'après-midi, une décision de la Cour de cassation est attendue sur le même sujet et le gouvernement dit être suspendu à cette décision pour dire l'état du droit. Bonjour Daniel Messager.
Bonjour Bruno.
C'est l'histoire des époux Menson qui ont eu deux jumelles nées par mère porteuse en Californie il y a 19 ans. Ils demandent depuis des années la transcription dans le droit français des actes de naissance américains. Monsieur Menson est le père biologique des jumelles. Qu'en est-il, Daniel, de Madame Menson, mère d'intention, mais qui ne pouvait pas biologiquement avoir d'enfant?
Oui, Sylvie Menson, effectivement, est victime d'une malformation la privant d'utérus. Avec son mari Dominique, elle est emblématique de cette lutte pour la reconnaissance de filiation. C'est le combat de leur vie. L'une de leurs filles, dans son livre « Moi, Valentina, née par GPA », racontait à quel point ces discussions sur la reconnaissance envahissaient tout, même les repas de famille. Alors, en avril dernier, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaissait que la mère d'intention devait bien avoir accès à la filiation en laissant ouvert pour chaque État, donc soit une transcription simple, ce que la France a rejeté pour l'instant, soit par le biais d'un processus d'adoption. Mais là, ce sont les Menson qui refusent. Pourquoi, disent-ils, Sylvie devrait-elle adopter ses propres enfants qu'elle élève depuis 19 ans?
Double impasse donc pour en sortir, Daniel. Une troisième solution existe dans le Code civil.
Une voie appelée la possession d'État. Celle-ci reconnaît un statut pour la femme qui n'a pas donné naissance, mais qui prend soin de l'enfant et l'élève, et témoigne ainsi du caractère parental. Si, et on va le savoir très vite à 14h, c'était cette option qui était décidée par la Cour de cassation, elle aurait plusieurs avantages. Pour les époux Menson, une façon de mettre un terme à leur combat juridique, et pour l'État qui doit prendre en compte la situation des enfants nés par GPA au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, une solution qui n'aurait pas l'air d'ouvrir la porte de la GPA puisque ce serait du cas par cas.
Alors voilà pour la GPA. Autre changement adopté hier soir par les députés, Daniel, les nouvelles règles de filiation pour les couples de femmes qui ont recours à la PMA.
Oui, et c'est un nouveau mode de filiation qui est reconnu. Les couples de femmes devront passer devant un notaire pour établir une reconnaissance anticipée, un double lien de filiation maternelle. La femme qui n'a pas porté le bébé est reconnue comme l'un des deux parents à égalité avec sa compagne. De nouveaux droits donc, mais aussi de nouveaux devoirs pour la compagne en cas de séparation notamment, pour continuer à subvenir aux besoins de l'enfant.
Et nul doute que tous ceux qui s'apprêtent à défiler contre la PMA suivent tout cela de très près. Manifestation dimanche à Paris. Merci Daniel Messager. L'actualité du droit, c'est encore la mise en examen du vice-président du Conseil d'État pour complicité de harcèlement moral. Enquête sur le suicide d'un de ses ex-subordonnés en 2014. Est-ce attentat? Est-ce coup de folie? Est-ce acte de vengeance? Les trois hypothèses restent possibles au lendemain du quadruple meurtre au sein même de la préfecture de police de Paris. Ce fonctionnaire du service informatique qui a poignardé et tué quatre de ses collègues avant d'être abattu dans la cour de la préfecture. Une cinquième fonctionnaire est grièvement blessée. Elle a reçu ce matin la visite du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de son secrétaire d'État Laurent Nunez. Le point de l'enquête dans un instant avec Sophie Parmentier. D'abord, après l'hôpital, les deux ministres ont pris la direction de la préfecture de police pour une cérémonie de recueillement. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Cérémonie particulièrement poignante, Ariane.
Oui, cérémonie qui s'est terminée vers 11h30. Les employés qui travaillent dans les bâtiments annexes rejoignent leur bureau, le visage fermé, avec encore dans leur esprit les mots que vient de leur adresser le préfet de police Didier Lallemand, qui déjà est employé dans l'administration.
Il a parlé des sentiments qu'on pouvait éprouver, comme de la culpabilité ou de la peur, puisque ça s'est passé dans nos locaux par un collègue. Ça provoque énormément de peur, puisqu'on peut se dire qu'on aurait pu être présent. Ça pose aussi des interrogations, de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? On est sous le choc et on attend des réponses.
À l'issue de la cérémonie, le ministre de l'Intérieur est allé voir les employés de la direction du renseignement, donc celle où travaillait l'assaillant, là où il a d'abord frappé. C'est aussi le service de cette représentante syndicale. Elle a pu échanger avec ses collègues ce matin.
C'est la sidération, la tristesse, on n'arrive pas à réaliser. C'est l'horreur qui est arrivée là où ça ne devait jamais arriver. Tout le monde se demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas vu, qu'est-ce qu'on aurait pu surtout faire pour empêcher que ce carnage. Moi-même, je suis toujours sidérée, ça me paraît improbable quoi, si je n'étais pas allée ce matin dans la cour de la préfecture. Pour moi, c'était quelqu'un de gentil, qui faisait partie pour moi des, j'allais dire, c'est peut-être pas péjoratif, mais des murs, quoi. C'est la personne à laquelle vous pouviez avoir recours dans votre travail de tous les jours.
Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner vient de quitter la préfecture de police. Un barnum a été installé sur le parvis hors du bâtiment. Il abrite des fleurs apportées par des Parisiens extérieurs à la préfecture. Un livre d'or y est aussi ouvert pour ceux qui voudraient rendre hommage aux victimes.
Merci Ariane Grissel en direct de la préfecture de police de Paris. L'enquête, comme promis, je parlais de trois hypothèses. Elles sont plus ou moins fortes à ce stade de l'enquête. Pour l'hypothèse de l'attentat, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire à ce stade. L'homme est un converti à l'islam, mais aucun signe de radicalisation visible, ni trace d'allégeance retrouvée chez lui à Gonesse, en banlieue parisienne. Pour le reste, il n'avait jamais présenté de difficultés de comportement, a précisé hier le ministre de l'Intérieur. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
La nouveauté, Sophie, vient des déclarations de sa femme en garde à vue.
Oui, son épouse entendue depuis hier sous le régime de la garde à vue. Vous savez que c'est le cas dans toutes les enquêtes classiques. L'entourage est rapidement interrogé. D'ailleurs, le frère de l'assaillant a aussi été auditionné. En garde à vue, en tout cas, la femme du tueur a affirmé aux policiers que son mari avait eu des visions et qu'il avait entendu des voix la nuit qui a précédé son passage à l'acte sanglant avec un couteau de cuisine. Alors l'hypothèse d'un coup de folie est aujourd'hui l'une des pistes privilégiées par les enquêteurs à ce stade. Les enquêteurs de la brigade criminelle qui continuent quand même à explorer les pistes d'un possible différend avec certaines des victimes. Mais les enquêteurs se heurtent toujours à une difficulté majeure. Les trois premières victimes de l'attaquant sont mortes sans aucun témoin dans deux bureaux de la direction du renseignement de la préfecture de police. Et donc on ne sait pas comment, pourquoi l'attaque a commencé. Les enquêteurs de la crime fouillent toujours aussi très activement les téléphones et les ordinateurs de cet informaticien. Ils veulent vérifier qu'il n'y a vraiment pas d'éléments liés à l'islam radical, alors que le tueur, vous l'avez dit, s'était converti à la religion musulmane il y a un an et demi. Mais pour le moment, en effet, aucune preuve tangible de radicalité, aucune allégeance à une quelconque organisation terroriste.
Merci Sophie Parmentier. Un petit goût de salon de l'agriculture avant l'heure pour Emmanuel Macron. Il était hier soir à Rodez. Il est ce matin au salon de l'élevage de Cournon, près de Clermont. Ça passe ou ça casse auprès d'agriculteurs qui avancent quelques raisons d'être fâchés et qui ont malmené deux députés hier, Roland Lescure, Jean-Baptiste Moreau. Alors cet échange entre le président et les agriculteurs, qu'est-ce que ça a donné ce matin, Cyril Graziani?
L'Élysée a voulu garder secrète cette visite plutôt périlleuse. Les éleveurs sont en colère et dans ces immenses halles où s'entassent veaux, vaches et taureaux, Emmanuel Macron est arrivé vers 9h.
Comme j'étais pas loin, ayant fini le débat à Rodez hier soir, j'ai pris la décision hier de passer. Et passer d'abord pour envoyer un message très clair qui est que on peut avoir toutes les convictions et œuvrer pour l'écologie, mais il faut qu'on arrête de se diviser sur ces sujets. Il faut qu'on défende nos agriculteurs.
Le président veut montrer qu'il est au chevet des agriculteurs. Il marche dans les pas de son prédécesseur, Jacques Chirac, mort il y a une semaine.
On est derrière. La sécheresse, là, on va faire apporter la réponse, on va aller plus vite. Et on en mange tous les jours, hein. Et moi, je veux continuer à manger notre viande.
Quand l'un appelait à manger des pommes, lui appelle à manger de la viande. Quelques mètres plus loin, il croise Sandrine, éleveuse de charolaises dans la Loire.
Non, mais c'est le matraquage qui est dur, tous les jours.
Mais il est dur en plus parce que vous ne vivez pas bien.
On a l'impression d'empoisonner les gens au lieu de les nourrir.
Non.
Mais si, le problème, il est là. Et dans les cantines, dans les hôpitaux, manger de la viande française, et ça, c'est important. Restaurant, c'est important. Le problème, il est là.
Dans trois quarts des cas, c'est pas français.
Trois quarts et demi des cas.
Voilà une image qui s'appelle La Belle.
Depuis maintenant 4 heures, le chef de l'État avance lentement. Les échanges sont vifs, mais pour l'instant très respectueux. À Cournon, Cyril Graziani, France Inter.
Hier soir, Emmanuel Macron à Rodez pour le débat sur les retraites. Quel poids réel les citoyens consultés par le gouvernement ont-ils dans l'élaboration de ces grandes réformes? Autre test, à partir d'aujourd'hui, la Convention citoyenne sur le climat se réunit pour la première fois à Paris. 150 citoyens tirés au sort et censés incarner une France en miniature. Parmi les 150, il y a cette dame de 64 ans. Elle est fonctionnaire à La Rochelle et ce matin, Mathilde Dehimy l'a attrapée à la descente du train à la gare Montparnasse. Stressée ?
C'est pas du stress, mais c'est un saut vers l'inconnu. Je connais pas, je sais pas qui je vais rencontrer. Je ne suis pas investie dans des démarches écologiques, ni climato, ni positives, ni sceptiques. C'est extraordinaire. On représente les citoyens français. C'est comme d'aller voter. Si j'ai mon bulletin de vote, je suis citoyenne, je viens, je suis sélectionnée, je suis citoyenne française et j'en suis très fière. Moi, l'idée, c'est on peut faire quelque chose. Même nous, notre tout petit pays français, notre toute petite planète là, on va la faire avec des petites gouttes de petits français qu'on va prendre dès l'école. Et je suis une grand-mère qui explique qu'on ramasse par terre. J'en suis là, pour le moment, j'ai pas assez de données encore. J'y vais un peu comme une éponge. Je veux que tous ces gens qui se sont penchés sur le sujet depuis très nombreuses années me donnent des pistes de réflexion qui ne me sont pas venues naturellement.
Et cette convention doit proposer au gouvernement des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors faire appel à un panel d'habitants pour accoucher d'une réforme importante, des exemples existent à l'étranger, en particulier en République d'Irlande, Emeline Vin.
L'Assemblée citoyenne naît de la crise financière de 2008. Elle vise à réparer la confiance entre les Irlandais et leur classe politique. Elle regroupe 99 citoyens tirés au sort de manière représentative qui débattent de thèmes jugés polarisants. Le mariage pour tous, le changement climatique et surtout l'assouplissement de l'interdiction de l'avortement étudié entre 2016 et 2018. Pour impliquer toute la population, les débats, les témoignages sont diffusés en direct à la télévision. Après 5 week-ends de travaux, l'Assemblée propose la légalisation complète. Trop extrême pour le gouvernement qui décide de passer par un référendum, les Irlandais votent pour à 66%. Avec ce modèle d'assemblée citoyenne, le gouvernement garde tout de même sa liberté d'action. Sur le climat, par exemple, les propositions de l'assemblée n'ont pas encore été traduites en une loi. Mais le modèle est entré dans la tradition irlandaise. Une nouvelle assemblée sera lancée à la fin du mois pour évoquer l'égalité entre les genres. Dublin, Emeline Vin, France Inter.
Dans l'actualité internationale encore, ce rapport de l'ONU, appuyé par une conférence de presse de l'ONG Human Rights Watch, depuis 2016, près de 18 000 personnes ont été tuées, exécutées sommairement, sans procès, au Venezuela, Olivier Poujade.
Oui, le plus glaçant, Bruno, c'est que ce bilan macabre, même le ministère de l'Intérieur de Nicolas Maduro ne le conteste pas. En additionnant les chiffres des registres officiels depuis 3 ans et demi, le bilan dépasse même les 19 000 morts dans la catégorie résistance à l'autorité. Ce n'est donc pas tant le nombre de victimes qui alarme aujourd'hui les Nations Unies, mais les méthodes des forces d'action spéciale de la police vénézuélienne, une justice de rue expéditive, une persécution systématique et planifiée des citoyens critiquant ouvertement la politique de Maduro. Certaines zones reculées et certains quartiers de Caracas sont ciblés, comme le bidonville de Petare à l'est de la capitale, quartier historiquement chaviste, mais qui a lentement basculé dans la contestation depuis 2016. Les commandos suréquipés de la police, appuyés par les colectivos, des miliciens au service du gouvernement, ils multiplient ces crimes de sang-froid. Dans d'autres régions, des témoignages que nous avons pu recueillir évoquent des assassinats en pleine rue et le passage immédiat par la suite de camions militaires pouvant faire disparaître les corps.
Merci Olivier Poujade. Quand un lycéen se bat avec son prof de sport, 5 semaines d'arrêt maladie pour l'enseignant, ça se passe à Sarcelles lundi. Le lycéen de 19 ans est en garde à vue, Delphine Evenou.
Oui, ça se passe juste après le cours d'EPS. Ce lycéen en première bac pro, connu pour être difficile mais pas violent, n'a pas supporté que son professeur, qui enseigne depuis 20 ans au lycée de la Tourelle, lui demande d'enlever sa casquette dans un couloir. S'ensuit une bagarre filmée, diffusée sur les réseaux sociaux. L'élève a interdiction de retourner dans l'établissement d'ici son conseil de discipline mardi. Ce sera le 4e conseil de discipline du lycée depuis la rentrée. Agression, tentative d'incendie, carreaux cassés, menaces et insultes. L'altercation de lundi est l'incident de trop pour l'équipe pédagogique qui a exercé son droit de retrait hier soutenu par les parents. Les cours ont repris ce matin pour pouvoir, explique un enseignant, entamer un dialogue avec les élèves dont certains réclament la démission du professeur en arrêt. Des surveillants ont été envoyés aujourd'hui en renfort par le rectorat. Parents et professeurs espèrent que l'agression poussera le ministère à prendre conscience du manque de moyens humains et matériels qui aboutit à ce genre de situation qui dégénère.
Habitat, les magasins d'ameublement sont à nouveau dans l'incertitude. La marque est à vendre. Le groupe qui possède Habitat, CAFOM, veut se recentrer sur le commerce en ligne. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Maxime, ça fait de longs mois qu'Habitat est en difficulté.
Ouais, un bon moment, une donnée pour l'illustrer. L'enseigne a connu 4 propriétaires différents en 10 ans et tous ses dirigeants successifs à travers le temps ont connu les mêmes difficultés à positionner la marque. Comprenez, le souci aujourd'hui, c'est qu'il y a un marché pour le très haut de gamme, le très bas, et qu'Habitat se retrouve pile au milieu dans le moyen de gamme. Difficile d'exister et d'engranger les bénéfices dans ces conditions.
Et globalement, c'est tout le secteur de l'ameublement qui est en mutation.
Oui, au-delà du cas d'habitat de ces 600 salariés, de ces 27 magasins dont certains pourraient devoir fermer, il y a aussi celui des autres enseignes dans la tourmente. On a beaucoup parlé notamment de Conforama ces dernières semaines. Son cas est un peu particulier, mais le groupe détenu par un fonds d'investissement sud-africain est en pleine restructuration. Les mastodontes de l'ameublement qui sont obligés tous de faire face à la concurrence du net. Le commerce en ligne de meubles représente désormais 12% des ventes du secteur avec des acteurs comme Made.com qui obligent les historiques à revoir leur modèle. Longtemps à la traîne en matière digitale, IKEA a ainsi vu ses ventes en ligne augmenter de 46% cette année.
Merci Maxime. Avant de l'actualité de la culture, notre rendez-vous du vendredi dans ce journal de 13h, j'ai testé pour vous. On en parlait au début de ce journal, entre les lois bioéthiques, la réforme des retraites, les budgets, de longues heures, de longues nuits de débats s'annoncent à l'Assemblée cet automne et dans les mois à venir. Alors on vous parle régulièrement de ces votes devant une Assemblée clairsemée au milieu de la nuit. Quelle ambiance ! J'ai testé pour vous. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Eh ben vous avez testé l'Assemblée la nuit, Maxence.
Oui, c'est vrai que le plus frappant quand on arrive en tribune de presse, c'est cette Assemblée clairsemée. 30, 40, 50 députés sur 577. Ouais. Ce sont en fait les spécialistes du texte à l'Assemblée. C'est comme ici à France Inter, chacun son domaine. Celui qui s'intéresse au budget n'y connaît en général rien. À la PMA, il se relaie donc dans l'hémicycle tout au long de l'année. Mais parfois, il y a quand même des trous.
L'amendement 2072... n'est pas défendu.
Ça veut dire que l'amendement part directement à la poubelle, oui. Parce que la personne qui l'a écrite ou co-signée n'est pas venue, c'est assez courant, surtout quand il est passé 23h ou que l'amendement a déjà été rejeté en commission. Mais parfois, en pleine nuit, on assiste aussi à des coups de théâtre.
Je mets aux voix l'amendement 1591... qui est pour ?
Alors c'est un vote à main levée, donc là les députés lèvent le nez de leur téléphone ou de leurs journaux, ils lèvent la main... Puis,
merci. Qui est contre ?
Ah, la présidente fait bien attention, comme à l'école, elle compte les doigts levés. La fois dernière, Richard Ferrand s'est trompé, elle recompte.
Il est adopté.
Il est adopté et c'est un coup de théâtre puisque c'est contre l'avis du gouvernement, oui, qu'il est adopté. Joli coup
en parlait au début du
voilà journée. De Jean-Louis Touraine. Alors au final, il y aura un nouveau vote. Oui, c'est la magie du règlement. Aucun vote n'est vraiment définitif la nuit. Le gouvernement garde toujours une fenêtre de tir avant le vote solennel, l'adoption du texte. Mais ces séances de nuit, très décriées par en gros deux tiers des députés, sont appréciées par d'autres comme Xavier Breton, député LR.
Les débats du soir sont souvent intéressants parce qu'on va au fond des choses. Il n'y a plus la pression de la journée, de l'actualité, etc. Donc on va au fond des choses et des séances du soir, ça permet effectivement de mieux travailler peut-être.
Et il a raison, souvent il y a moins d'effets de manche, davantage d'échanges aussi à la buvette de l'Assemblée. Nous, on n'y a pas accès, on a une petite buvette avec des sandwichs. Eux ont accès à un cocktail séance de nuit à base de Cointreau, de jus de citron et de rhum.
Ah bah oui, pour tenir le coup.
Assez apprécié, voilà. Ouais. Alors ça se terminait à 1h du matin jusqu'en septembre. Maintenant, c'est minuit. À minuit, vous voyez une foule de taxis arriver devant l'Assemblée où d'autres députés, eux, rentrent dans leur bureau, ils déplient leur petit lit et ils passent une nuit et la séance reprend à 9h le lendemain.
Merci Maxence Lambrecq pour ces coulisses de la vie politique. Nous passons à l'actualité culturelle. Dans 3 semaines, l'une des expositions les plus attendues de l'année commence au Louvre. Léonard de Vinci. Alors, la Joconde ne sera pas directement accrochée à côté des autres œuvres. L'espace d'exposition n'est pas assez grand pour cette star mondiale, mais même à quelques encablures dans une autre partie du Louvre, Mona Lisa sera quand même une des stars de cette expo. Et pour l'occasion, la salle où elle est abritée et qui regorge de chefs-d'œuvre vénitiens et florentins, la salle des États, a été entièrement restaurée. Jacqueline Pétrose, privilège en avant-première pour France Inter, vous nous racontez le raccrochage d'étoiles.
Dans l'immense salle de 17 mètres de haut, une dizaine de personnes s'activent sur des échafaudages et face au tableau. Sur le mur, à gauche des noces de Cana de Véronèse, à lui seul 60 mètres carrés, Esther et Assyrus est en place. On raccroche la belle Nanny entre la crucifixion et une vierge à l'enfant, au centimètre près. Sébastien Allard, directeur du département des peintures du musée du Louvre.
On pourrait mettre peut-être 44. Un centimètre, ça peut changer l'impression qu'on a d'un tableau. Même sur une échelle qui est celle de la salle des États, c'est un travail de précision.
Les échelles et chevalets en bois appelés traînards qui supportent les tableaux en attente vont et viennent.
Les pèlerins d'Emmaüs, on va les pousser parce que là-bas, il y a encore des tableaux. Entre le couronnement d'épines et l'homme au gant.
Les couleurs claquent sur l'audacieux mur bleu de Prusse, travaillé à l'éponge avec du noir. Sébastien Allard.
La couleur jaune précédente tuait un peu ce qui fait la caractéristique de Venise, c'est-à-dire la couleur de Véronèse, la couleur de Titien, de Tintoret. Et ça a été un chantier complet, puisque nous avons décadré tous les tableaux, nettoyé, voire changé les verres. On a aussi changé le verre de la vitrine de la Joconde pour un verre de meilleure qualité, plus transparent, enfin plus moderne.
La magnifique collection des Vénitiens et Florentins installée, Mona Lisa reviendra en souveraine recevoir ses milliers de visiteurs.
Madame Michel.
Voilà pour cette nouvelle chambre pour la Joconde à quelques encablures du Louvre, près du Petit Palais, toujours à Paris. La statue de Jeff Koons, les tulipes, a été inaugurée ce matin. 10 mètres, une main tient des ballons de toutes les couleurs, comme un bouquet de tulipes. Statue promise par l'artiste américain en signe d'amitié aux Parisiens après les attentats de l'année 2015.
Bouquet of tulips is a symbol of offering.
Bouquet of tulips est le symbole d'un cadeau pour figurer la perte ressentie par les familles. Le bouquet comporte seulement 11 fleurs. La 12e manquante représente la perte subie pendant l'attaque. Bouquet of tulips fait référence à la main qui tient la torche de la statue de la liberté de Bartholdi. C'est aussi un dialogue avec le bouquet de Picasso, un bouquet d'amitié. Les fleurs sont associées universellement avec l'optimisme, la renaissance, la vitalité de la nature et le cycle de la vie. C'est le symbole que la vie continue. J'espère que tous les citoyens français, ainsi que tous les touristes qui verront la statue dans les jardins des Champs-Élysées, ressentiront l'essence de l'amour, du soutien, de l'optimisme et de la solidarité qui s'en dégage.
Voilà pour ces propos recueillis ce matin par Jacqueline Petrose. Le sport et cette confirmation, Claude Puel, l'ancien de Lyon, devient l'entraîneur du rival Saint-Étienne, c'est donc officiel. Et puis en rugby, après-demain, le troisième match de Coupe du Monde pour les Français qui doivent composer avec une épidémie de blessures avant d'affronter le Tonga. De nouveaux forfaits, l'arrière Thomas Ramos, le talonneur Peato Movaka. Au total, les Bleus ont perdu 7 joueurs depuis le début de la préparation. Ça pose question, Jérôme Val.
3 joueurs avaient déjà quitté le groupe durant la préparation estivale. 2 sont rentrés en France la semaine dernière et maintenant 2 autres vont faire leur valise, dont le talonneur toulousain Peato Movaka, blessé sans avoir disputé une seule minute dans cette Coupe du Monde. Depuis le mois de juin, le 15 de France s'est doté d'un nouveau préparateur physique, Thibaut Giroud, venu avec, disait-on à l'époque, des méthodes novatrices. Alors, a-t-il trop tiré sur la corde dans la moiteur japonaise ? Le sélectionneur Jacques Brunel défend la préparation de son groupe.
Malheureusement, les blessures arrivent à tout moment, hein, quelle que soit la dureté des exercices, c'est pas lié à ça du tout, c'est accidentel.
Brunel a beau répéter que chaque Coupe du Monde apporte son lot de mauvaises surprises, 7 joueurs au tapis sur 31, ce n'est pas loin d'être un record. Et cette accumulation de forfaits, c'est autant de moments difficiles pour un groupe qui vit ensemble depuis plus de 3 mois, le 3e ligne, Grégory Albrit.
On est triste pour nos copains qui partent un peu prématurément. En s'engageant dans cette compétition, on savait qu'il y aurait peut-être ce genre d'aléa. Donc on s'y était préparé. Voilà, à nous de se servir de ces moments difficiles pour pouvoir aller encore plus loin.
L'encadrement français en vient presque à prier que dimanche, pour le match contre des Tongiens surpuissants, aucun joueur ne finisse à l'infirmerie. Kumamoto, Jérôme Val, France Inter.
France Tonga de Coupe du Monde, c'est à 7h45, il faudra se lever tôt dimanche.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Sébastien Léas.
Une perturbation faiblement active donne un ciel chargé entre les Pyrénées et le centre-est et lâche encore quelques gouttes, notamment le long de la chaîne pyrénéenne. Des nuages glissent également vers le Languedoc et le golfe du Lion, contrariant les belles éclaircies. Alors que le soleil est tout juste voilé en Corse et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, des éclaircies assez nettes se dessinent entre le sud-Bretagne, le centre-Val de Loire jusqu'en Gironde. Plus au nord, les éclaircies sont plus timides. Des averses régulières débordent au nord de la Seine, mais entre la Loire et la Seine jusqu'en Bourgogne et au Grand Est, le risque d'averses est plutôt faible cet après-midi. Les températures de cet après-midi sont généralement comprises entre 14 et 22 degrés avec 20 à 26 degrés autour de la Méditerranée. A noter aussi du vent au nord de la Loire et sur le pourtour méditerranéen. En Corse, le vent va même devenir violent la nuit prochaine.